si l'individu est ce qui est en soi indistinct. C'est une question. Si l'individu est en soi ce qui est indistinct et distinct des autres, donc incommunicable, confère contra gentiles, confère la somme, question 29, article 4 et ad tertium. Et si individu exprime justement une substance individuée par elle-même, pourquoi dans la définition de la personne humaine dit-on substance individuelle? N'y a-t-il pas une réduplication du terme individu sur le terme substance? Non, parce que la substance peut être prise de deux manières différentes. Elle peut être prise en tant que principe ou en tant que impliquant l'individuation. Ce que j'exprime en termes philosophiques, en disant la personne comme principe, c'est le tiesti, et la personne individuée, c'est le pos. C'est quand même deux choses différentes. Il faut donc arriver à distinguer les deux. Que saint Thomas passe de l'un à l'autre sans faire aucune allusion, c'est normal, il est en théologie. Je vous ai dit, le théologien se sert de la philosophie en vue, se sert de la sagesse en vue de la foi. Donc il fait des quantités de distinctions qu'il n'a pas besoin de faire, qui sont présupposées, faites en philosophie. Et si le philosophe ne les fait pas, alors à ce moment-là, lui, c'est la confusion. Ce qui est confusion en philosophie n'est pas nécessairement confusion en théologie. C'est ça qu'il faut arriver petit à petit à comprendre pour saisir la différence qu'il y a entre le point de vue d'une analyse philosophique et l'analyse théologique. Alors évidemment, la scolastique a confondu constamment de même. Ça, pour moi, c'est pour ça que la scolastique, de fait, n'a pas répondu entièrement à ce qu'elle aurait dû faire. Parce que quand vous regardez la philosophie scolastique dite Thomis, c'est constamment une laïcisation de la pensée théologique. Alors comme c'est une laïcisation de la pensée théologique, ce n'est pas repenser. Et il faut repenser les choses pour découvrir ce qui est exigé au point de vue analyse philosophique et ce qui est proprement théologique. Alors je reprends. Dans une analyse proprement philosophique, je distingue la substance comme principe et la substance individuée qui est un pos, une manière particulière d'être de la substance. La substance n'est pas toujours individuée. La preuve, c'est qu'elle est individuée diversement. Une substance séparée est individuée autrement qu'une substance composée. Et c'est toujours une substance individuée. Donc il s'agit de comprendre. Il s'agit de préciser. Donc, au point de vue philosophique, je suis obligé de distinguer le tiesti de la substance et le pose de la substance. Au point de vue théologique, je n'ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que le jugement d'existence en théologie me vient de la foi et ne me vient pas de mon expérience philosophique. Ça me vient de la foi. La foi implique un jugement d'existence. Ce jugement d'existence est un jugement d'existence divin, qui donc est capable d'assumer ce que représente l'intelligibilité du principe et l'intelligibilité de l'individu, sans préciser. Je n'ai pas besoin. Mais ça, c'est le problème de la théologie. La théologie est moins précise que la philosophie quand il s'agit de notions que je saisis au point de vue philosophique. La preuve, c'est que je les utilise. Du fait même que je les utilise, elles n'ont plus la même précision. C'est forcé. Dès qu'on utilise quelque chose, ça n'a plus la même précision. Dans l'ordre pratique, c'est comme ça aussi. Autre chose est de regarder un outil pour lui-même, autre chose est de l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir la même précision quand vous l'utilisez. Vous dites, ah, je connais très bien cet outil. Vous ne le connaissez pas du tout. Vous l'avez utilisé. Et vous dites, vous le connaissez. Mais non, je le connais dans son usage. Mais je ne le connais pas en lui-même. Mais c'est un peu la même chose au point de vue théologique. J'utilise la sagesse philosophique, la sagesse métaphysique, je l'utilise, mais je ne la connais pas nécessairement dans ces différents termes. Vous n'avez qu'à faire le parallélisme et vous comprendrez, et ça c'est très important, c'est très très important pour arriver à bien saisir ce que représente l'utilisation d'un concept, d'une notion en théologie et la découverte de cette notion philosophique. Oui. Alors, on vient de me poser ici une question et je réponds tout de suite. C'est tout à fait dans le sens du reste de ce que nous avons dit précédemment. Peut-on, au point de vue métaphysique, au point de vue de sagesse philosophique, théologie naturelle, dire Dieu est une personne? Je dis oui. Je peux, au point de vue proprement philosophique, dire Dieu est une personne. Pourquoi? Parce que ma notion de personne n'est pas liée, premièrement, au corps. Ma notion de personne est liée à la substance individuée. Or, il peut y avoir des substances individuées qui ne sont pas liées au corps. Philosophiquement parlant, je peux le dire. Dès que je découvre l'être premier, l'existence de l'être premier, je découvre un être qui n'est pas lié au corps, qui est séparé de la matière, et qui, parce qu'il est premier, subsiste en lui-même. Il est une substance. Cette substance individuelle et spirituelle, or, c'est les deux choses qui sont nécessaires pour affirmer la personne, nous l'avons vu. Substance, dans l'ordre de l'être, et esprit. Il n'y a pas de personne s'il n'y a pas de substance et s'il n'y a pas d'esprit. C'est les deux liés ensemble. C'est donc la substance qui implique une nature raisonnable, donc l'esprit. Si je regarde le mystère de l'être premier, je peux dire tout de suite que l'être premier est une personne. Pourquoi? Parce que l'être premier implique le point de vue de la substance et implique le point de vue de l'esprit. Cet être premier est nécessairement esprit, il est séparé de la matière, il est nécessairement individuel, il existe, il est posé dans son existence. Et donc, s'il est esprit et s'il est substance individuelle, il est donc une personne. Je n'ai pas besoin de plus, hein, pour affirmer. Bon, ça, c'est net, hein. Alors, la position délicate, c'est la foi me dit, il y a trois personnes en Dieu. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas contradictoire de dire trois personnes en Dieu et une personne? Bien, je dis non, ce n'est pas contradictoire, parce que ce n'est pas au même niveau. D'un côté, c'est la recherche philosophique qui aboutit à affirmer l'existence d'un être premier qui est un esprit et qui est une personne. Je suis donc là au niveau de l'intelligibilité de la théologie naturelle. Dès que je me place dans la lumière de la foi, je me place dans une lumière divine. C'est Dieu qui me révèle qu'il est trois. Je suis donc dans une autre lumière, la lumière de la foi, qui me permet de pénétrer dans le mystère de la fécondité de Dieu. Et dans cette fécondité, je découvre que Dieu implique trois personnes. Ce que la foi me dit. La foi ne me dit pas du tout ce que représentent ces trois personnes par rapport à l'unité. La foi simplement affirme, c'est le propre du théologien d'essayer de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'affirmation de l'unité de Dieu et les trois personnes. C'est le propre du théologien, ça. Le théologien doit toujours montrer que les diverses affirmations de la foi ne sont pas contradictoires, que les diverses affirmations de l'Écriture ne sont pas contradictoires. C'est les silex qu'on frotte l'un sur l'autre, d'où jaillit l'étincelle. Alors, plus les silex apparaissent comme contradictoires, plus c'est intéressant pour le théologien. Parce que plus la lumière sera grande, lorsqu'on arrivera à montrer que, de fait, il n'y a pas de contradiction. Parce qu'alors, à ce moment-là, ça exigera de moi un dépassement. Vous prenez ce que saint Augustin dit, sont les flûtes. Ça n'a pas d'importance, hein. Les silex ou les flûtes. Ça dépend de ce que vous aimez mieux comme comparaison. Mais ça revient exactement au même. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans l'écriture. Il ne peut pas. Mais il peut y avoir des contradictions apparentes. Exactement comme j'affirme une personne et trois personnes. Contradiction apparente. En réalité, pas de contradiction. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de l'unité que se fait la distinction. Ce n'est pas extérieur. C'est à l'intérieur de l'unité. Cette unité est telle qu'elle implique une richesse unique, une fécondité, et que cette fécondité va être une fécondité qui va permettre de découvrir une distinction des personnes, et cette distinction des personnes, et je dis distinction des personnes pour montrer l'absolu de la distinction. C'est ça qui m'intéresse, l'absolu de la distinction. Chaque personne divine divise, ou distingue, plus exactement, plutôt que diviser, distingue l'être de Dieu, sans le diviser, sans qu'il y ait trois personnes. Sans, je veux dire, sans qu'il y ait trois réalités. Il y a trois personnes et une réalité. Et cette réalité unique est une personne au sens absolu. Alors, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est justement comment le théologien, devant ce problème, essaie de préciser une nouvelle notion, je dis bien une nouvelle notion théologique de la personne. Et on verra que cette notion nouvelle de la personne n'est pas en contradiction avec la notion de la personne telle que le théologien essaie de la découvrir. C'est un très beau problème, hein. C'est le plus beau problème de toute la théologie. Ça. C'est évident que c'est ça, parce qu'on s'affronte à ce qu'il y a d'ultime dans la connaissance, à ce qui est tout à fait propre à la foi. Alors, c'est ça que nous devons essayer de comprendre. Alors, ça a été tout l'effort de saint Thomas. Tout l'effort de saint Thomas a été de bien comprendre comment, dans l'omnisimplex divin, dans la simplicité absolue de l'être de Dieu, l'ipsum esse subsistens. Donc, l'ipsum esse subsistens. De la simplicité absolue de Dieu. Omnino simplex. Simplicité absolue. La foi me dit, il y a trois personnes. Donc ici, une personne et trois personnes. Mais vous comprenez que le mot une personne et trois personnes font que la signification de la personne prend deux significations totalement différentes. Et je dis bien totalement différentes. C'est ce que saint Thomas appelle ce qu'il y a de notionnel et ce qu'il y a d'essentiel. Peu importe la terminologie, mais il y a une terminologie forcée. Là, je suis dans l'ordre notionnel, c'est-à-dire, je suis dans l'ordre de ce que représente le domaine de la foi. Ici, le domaine de mon intelligence humaine qui découvre l'unité de Dieu. Dieu est découvert dans son unité et dans son absolue simplicité. Il ne peut pas être découvert autrement. Et dans cette absolue simplicité de Dieu, je découvre, la foi me dit qu'il y a une fécondité en Dieu, et cette fécondité en Dieu me permet de distinguer une personne distincte de l'autre, et de comprendre que les deux sont sous une troisième. La foi me dit simplement trois personnes en Dieu. Elle ne me donne pas l'ordre. L'ordre, c'est le théologien qui va préciser. Cet ordre existe entre la première personne, la seconde personne et la troisième personne. Il s'agit de découvrir ce lien qui existe entre ces trois personnes divines, puisque c'est propre du saint qui est ordonné, et la sagesse théologique existe dans la mesure où elle découvre cet ordre. Elle découvre cet ordre autant ce que nous pouvons dire du mystère de Dieu qui nous échappe complètement, qui est au-delà de tout nos concepts, de toutes nos notions. Il n'y a pas une nouvelle notion de la personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas une nouvelle notion de la personne à partir de la très sainte Trinité. Mais vous allez voir que de fait, c'est ce que fait la théologie chrétienne, la philosophie chrétienne. Et c'est ça le danger. C'est là où il y a erreur. Parce que je ne peux pas, à partir de la foi ou à partir de la théologie, me dire j'ai un nouveau concept, puisque la foi ne m'apporte aucun nouveau concept. La foi m'apporte un nouveau jugement d'existence. Mais elle ne m'apporte aucun nouveau concept. C'est propre de la foi. Un nouveau jugement d'existence, et donc elle va me permettre des analogies nouvelles qui vont se fonder sur mes concepts. Je prends concept au sens fort, c'est-à-dire le concept au niveau de l'appréhension. Parce que si je prends point de vue de l'énonciation, je peux dire que la foi me porte de nouvelles énonciations. Faites attention là-dessus, parce que il peut y avoir des équivoques. Alors, il faut être très très formel et très précis. Concept, pour saint Thomas, le concept saint, c'est l'appréhension. Le concept de la seconde opération, c'est l'énonciation. Alors, je peux dire que la foi me donne de nouvelles énonciations, donc de nouveaux concepts complexes, et pas de nouveaux concepts simples. Faut bien saisir ça. J'ai des difficultés là-dessus. Notez-les, et puis vous demandez-les-moi, parce que c'est très important, ça. Si on ne saisit pas ça, on ne peut pas saisir ce que c'est que la théologie. Absolument impossible. Le passage de la théologie à la foi, c'est tout le temps là-dessus que ça joue. Et les confusions qu'on peut faire entre les deux viennent de là. Alors, il faut donc comprendre que saint Thomas se trouve devant ce problème, la foi nous dit trois personnes. Alors, on se pose la question, quelle est la raison formelle de la personne telle que la foi me le dit? C'est-à-dire de ces trois personnes divines. Quelle est la raison formelle? Le théologien va jusque-là. Hein. Il veut savoir quelle est la raison formelle de la personne dans la très sainte Trinité. C'est-à-dire de la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque je les nomme. Ils se sont révélés avec ces noms. Père, Fils et Esprit Saint. Alors, je vais essayer de saisir quelle est la raison formelle de la paternité, de la filiation et de l'aspiration de l'Esprit Saint. Comprenons que la relation qui existe entre le Père et le Fils, ça, je peux tout de suite le poser. Pourquoi? Parce qu'entre le Père et le Fils, il y a une procession. Le Fils procède du Père. Et ceci, c'est l'Écriture qui me le dit. Le mot même est dans l'Écriture. Le Fils procède du Père. Je vais donc d'abord purifier la notion de procession, puisque c'est celle-là qui est le plus proche de l'Écriture. Je purifie ma notion de procession, et c'est tout le grand effort que fait saint Thomas dans le Contrat Gentilé. C'est dans le Contrat Gentilès qu'on voit le mieux cet effort étonnant, merveilleux de la purification de la procession. Il y a des processions qui impliquent une œuvre, et il y a des processions purement immanentes, sans œuvre. La procession purement immanente exprime la vitalité spirituelle d'un vivant. Un vivant peut vivre sans avoir d'œuvre. Et c'est le caractère propre du vivant spirituel. Un vivant non spirituel a toujours une œuvre. Il a au moins un petit. Il a une œuvre. Tandis que le vivant spirituel peut vivre dans l'immanence pure. C'est très très beau. Ça montre ce que c'est que l'immanence première du vivant. Et ça fonde toute la contemplation. Je ne peux pas fonder la contemplation au niveau de la vie biologique, ni au niveau de la vie sensible. Je ne peux la fonder qu'au niveau de la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit peut très bien ne pas avoir d'œuvre. Elle a une œuvre, elle a un fruit immanent. Elle n'a pas d'œuvre, elle a un fruit. Et elle a un fruit immanent. Et ce fruit immanent, c'est justement ce que je découvre du côté de l'intelligence et du côté de la volonté. Mais je peux préciser qu'entre la source et le fruit, je ne dis pas là, entre la source et le fruit, il y a une relation. Une relation, non pas de, nécessairement de dépendance, mais une relation d'antériorité, de postériorité. Puisque le fruit est nécessairement après la source. Mais antériorité, postériorité, non pas au niveau du temps, mais au niveau uniquement de l'intériorité de la procession. Puisque le Fils est éternel comme le Père. Donc il n'y a pas d'antériorité dans le temps. Mais il y a une relation entre les deux. Le Fils provient du Père, et le Père est source du Fils. Donc, je peux me servir de ma relation, et le pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là où je vois tout de suite, je passe de l'aspect de l'écriture à l'aspect théologique. Le mot « relation » est un terme proprement théologique. Tandis que le mot procession est révélé. Je passe de la procession à la relation. Pourquoi ce passage? C'est intéressant de savoir ça. Pourquoi ce passage? C'est que le point de vue procession est au niveau de la vie, tandis que le terme relation est au niveau de l'être. Si je veux savoir comment est constituée la personne divine, c'est au niveau de l'être. Vous voyez toute la difficulté puisqu'il n'y a qu'un seul être en Dieu. La fécondité est au niveau de la vie. Là, je touche le mystère, vous voyez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le théologien introduit le terme relation, la notion de relation, pour préciser à l'intérieur de cette fécondité qui existe en Dieu, pour préciser à l'intérieur de cette fécondité, la distinction. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Et cette distinction ne peut être précisée qu'au niveau relation. Parce que la relation associe de tout à fait particulier, puisque c'est l'être le plus débile. Il ne faut pas l'oublier, cette expression d'Aristote, qui est très très jolie. C'est l'être le plus débile. Parmi tous les prédicaments, c'est l'être le plus débile, c'est l'être le plus faible. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, la relation n'ajoute rien. La relation me met tournée vers. Elle est pros. Pros, tonteron. La relation, c'est uniquement ça, d'être vers. Ce qui a de tout à fait caractéristique à la relation, donc un art. Le terme est dans l'écriture, hein, dans le prologue de Saint Jean. Hein, on trouve prostolteon. Il est tout entier vert. C'est très très beau. Donc, vous voyez, le passage, le lien entre la procession et la relation, ça, c'est proprement le philosophe, le théologien qui fait ça. Et puis, dès qu'il est la relation, c'est vrai, le terme relation, le pros, est dans l'écriture. Le Fils est tout entier face au Père. Il est tout entier tourné vers le Père. Il est tout entier ordonné vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je peux appliquer ce terme de relation? Parce que la relation, en elle-même, n'ajoute rien. Elle dit simplement l'ordre vers. Puis tout. Je précise que quand j'attribue la relation au Fils ou au Père, j'attribue une relation extrêmement purifiée. Alors c'est ça la purification du théologien par rapport au terme de relation. La relation, au point de vue proprement philosophique, implique un âme et un livre. Les expressions de saint Thomas, mais qui sont avant saint Thomas. C'est saint Thomas qui prend ça, qui le précise, qui existe dès que je fais la philosophie, la métaphysique de la relation. Je peux faire la métaphysique de la relation. Si je fais la métaphysique de la relation, j'essaie de regarder la relation du point de vue de l'être. Mais du point de vue de l'être, la relation a ceci de tout à fait particulier, que c'est un être tellement débile qu'il a besoin d'un fondement. Il a besoin d'une cadre. Trop débile pour pas tenir tout seul. La relation ne tient pas tout seul. La relation a besoin d'un fondement. Tout être relatif est fondé. Tandis que la qualité n'a pas besoin de fondement. Elle est à elle-même son propre fondement, parce qu'elle qualifie. Tandis que la relation comme telle a besoin d'un fondement, parce qu'elle est tournée vers l'autre. Si elle est tournée vers l'autre, elle n'explique pas comment elle est enracinée. Vous pouvez prendre des exemples très simples, ce serait très intéressant à voir, quelque chose qui est purement tourné vers l'autre. Hein. Un seul pleureur, hein. Ça se voit très très bien, tout entier tourné vers la terre. Il pleure tellement. Alors, il saute pleurant. Alors, il a besoin d'un fondement. Autrement, il dégringolerait, c'est évident. Il a besoin d'un fondement. Il a besoin d'un tuteur qui maintient le tronc solide. Autrement, le poids. Un arbre plein de fruits. Ça dégringole s'il n'y a pas un fondement. À ce moment-là, même. Oui, le fondement. Parce que la relation est tout entière tournée vers l'autre. Elle a besoin d'un fondement. Donc, au point de vue philosophique, j'explique toujours le point de vue de la relation, par le point de vue large, qui fait que la relation permet de tourner vers un autre, et puis le in, l'enracinement, le fondement. Ceci pour expliquer la relation en tant qu'accident. En tant qu'accident, elle implique toujours un fondement, le in, par où la relation existe. Parce que si le in n'est pas réel, et que le in est uniquement dans mon intelligence, et mon intelligence qui peut arriver à faire cela, je suis alors en présence d'une relation de raison. Ça, c'est l'autre problème philosophique, qui est très intéressant à voir, c'est que la relation seule, comme prédicament, peut être une relation dite prédicamentale, ou une relation de raison. Et la distinction qui existe entre les deux, ce n'est pas au niveau de l'arbre. La relation de raison est une relation réelle, comme relation, mais elle n'est pas réelle comme être. Donc elle est formellement réelle, et uniquement formellement. La relation peut être une relation de raison, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir une substance de raison, sauf si je suis Hegel. C'est justement là l'erreur de Hegel. La substance ne peut pas être une substance de raison. La qualité ne peut pas être une qualité de raison. La qualité est toujours une qualité réelle, existentielle, par elle-même. Tandis que la relation peut être une relation de raison. Pourquoi ? Parce que le « in » qui donne le caractère réaliste de la relation, le « in » peut être une opération intellectuelle. Si le in est une opération intellectuelle, je suis alors en présence d'une relation de raison. Alors, une relation de raison, pensez tout de suite à l'universel. L'universel est une relation de raison. Alors, pensez animal, si vous aimez mieux, parce que c'est plus proche de vous. Pensez l'universel. Animal. Qu'est-ce que c'est qu'animal ? Animal, c'est justement un concept qui a cette universalité générique, d'englober d'une quantité de choses secondaires et de les ramener à une certaine unité. C'est ça le propre, si vous voulez, le propre de la relation, c'est le propre du genre, c'est d'impliquer quelque chose d'universel. L'universel est un être de raison. L'universel, c'est une relation de raison. Quel est le fondement de l'universel ? C'est la nature en tant qu'elle est pensée. Donc, c'est bien l'opération de l'intelligence qui est le fondement de cette arme. C'est pas la nature humaine, c'est pas la nature individuée. La nature individuée n'est pas le fondement de l'universel. Vous n'êtes pas, vous, directement le fondement de l'universel. Vous êtes uniquement le fondement d'une réalité existante. Mais dès que je vous pense, je vous universalise. C'est ce privilège énorme. Dès que vous êtes pensé. Dès que la nature humaine est pensée, elle a un mode particulier, d'être universel. Et donc à ce moment-là, je suis en présence de la naissance de la relation de raison. Je suis en présence de la relation de raison qui me permet de comprendre, c'est très très important ça, parce que, vous voyez, ça fait comprendre que la distinction entre le yin et le had ne provient pas de la foi, mais provient tout simplement de la réflexion que je fais au point de vue philosophique entre la relation réelle et la relation de raison. C'est capital de comprendre ça. Vis-à-vis de vous-même, vous êtes identique à vous-même. Moi, j'espère. Vous êtes identique à vous-même, parce qu'on cherche toujours son identité. Identique à soi-même. Qu'est-ce que c'est d'être identique à soi-même? Est-ce que c'est un être réel d'être identique à soi-même? Mais non. C'est vous-même qui fabriquez cette relation de raison d'être identique à vous-même. Ça ne faut pas trop chercher. Si vous cherchez indéfiniment, vous n'arriverez jamais. C'est votre intelligence qui forme cette distinction de dire « je suis identique à moi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire « identique à moi-même » C'est-à-dire, ce que je pense de moi est-il vraiment fondé sur ce que je suis? Parce que je peux me penser totalement différent de ce que je suis. Alors, à ce moment-là, je perds mon identité. Tous les autres me mettent sur une fiche et disent « tiens, un beau jour, je regarde la fiche. » Qu'est-ce que c'est un vrai semblable. Je n'ai jamais pensé comme ça. Allez, c'est quand même le premier jour où le petit chat se regarde dans la glace. Je dois faire peur aux autres, parce que je me fais peur à moi-même. Alors, identique à soi-même, hein, l'identité, la crise de l'identité, hein, on dit ça tout le temps. Et la crise de l'identité, ça repose sur une relation de raison. Alors, cherchez. Une relation de raison par laquelle vous vous dédoublez vous-même. Donc, la distinction entre le yin et le had est d'ordre philosophique. Et je distingue relation de raison et relation réelle, existentielle. Oui. Dans la réalité, dans le monde vivant, mais c'est réel. C'est la génération. La génération n'est pas un être de raison. C'est la procréation. La procréation fonde la relation père-fils. Si le père est bien source de la génération, ça que diront que ça, on est tout à fait authentique que par rapport à la mère. Soit la génération, par exemple, vis-à-vis de la mère, mais c'est une relation de filiation qui se fonde sur le point de vue de la procréation. La relation de similitude qui existe entre vous et votre voisin, vous pesez le même poids, 120 kilos. C'est une relation réelle d'égalité, vous pesez 120 kilos. Une relation de similitude, vous avez des yeux bleus, et votre voisin a des yeux bleus. Une relation de similitude, réelle, c'est une qualité qui fonde. Alors les fondements des relations, c'est ou l'opération, ou la qualité, ou la quantité. Il n'y a pas 36, il y en a 3. Vous avez trois relations réelles comme fondement. Et puis, les relations qui fondent une relation de raison, c'est l'opération intellectuelle. Ou une opération d'amour. Hein. L'opération intellectuelle, l'opération d'esprit. Je suis identique à quelqu'un dans l'ordre de l'amitié, par exemple. Alors là, il peut y avoir des relations de raison qui sont très liées avec des relations réelles. Très intéressant à voir. Vous pouvez imaginer que vous êtes tout à fait l'ami de quelqu'un. Imaginez, je suis son ami, je l'aime, je suis sûr qu'il m'aime de la même manière, c'est extraordinaire. Alors à ce moment-là, vous forgez une relation d'unité. Vous la forgez. C'est une relation de raison, c'est pas une relation réelle. C'est ce qui explique que le jour où vous apercevez que c'est pas une relation réelle, ça craque. Vous croyez que c'est réel, c'est pas réel. Un abîme qui se voilà. Ça, c'est le passage du réel au présent. Bon. Ce que je veux dire ici, c'est que la distinction de l'âme et de l'hymne est une distinction qui est fondée dans mon analyse philosophique. Le théologien qui se sert de la relation pour parler de Dieu, c'est en raison de la simplicité de Dieu, qui est présupposée, qu'il ne peut pas y avoir d'accident de Dieu, donc il ne peut pas y avoir d'hymne, qui est le fondement. Le théologien dit que la seule chose que je peux transposer en Dieu, c'est le had. tous comprendre ça. Petit effort intellectuel, c'est sûr, mais c'est petit effort. Et que ce arbre en Dieu s'identifie avec la substance de Dieu. C'est donc un arbre substantiel. Au point de vue philosophique, c'est contradictoire. Au point de vue théologique, ça ne l'est pas. C'est merveilleux, ça. Vous comprenez, faisons attention, pas à l'usage externe, hein. On empoisonne les gens. Pas à l'usage externe, c'est à l'usage interne. Seul le croyant peut comprendre cela, que le arbre peut être attribué à Dieu, ce qui n'implique aucune imperfection, le arbre. La relation comme telle n'implique aucune imperfection et aucune perfection. C'est uniquement être relatif. Ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute absolument rien, mais ça exprime un état de fait. C'est vrai, être fils de quelqu'un, est-ce que c'est une perfection? Mais non, c'est un état de fait. C'est un état de fait que vous êtes fils de quelqu'un. Ben, Abraham, hein, fils d'Abraham, c'est très bien, c'est un état de fait. Est-ce que vous êtes parfait à cause de ça? Pas du tout. La relation comme telle exprime un état. Il n'exprime pas une qualité ou une imperfection. La relation comme telle, le fondement, oui, mais pas la relation comme telle. C'est simplement relatif à. Alors, je vois, je peux attribuer à Dieu le arbre en disant, pas le in en Dieu, c'est la substance même de Dieu. Donc c'est la simplicité de Dieu. Chose extraordinaire. C'est la simplicité même de Dieu. Donc le arbre attribué à Dieu, ça ne peut être qu'un arbre subsistant. Arbre au niveau de la substance. Mais ne dites pas, comme disaient certains, que grâce à la très sainte Trinité, j'ai une nouvelle notion de la relation. J'ai une relation substantielle. Je ne peux pas dire ça. Parce que là, je fais sortir, vous voyez, quelque chose que je ne peux dire que dans la foi, et je le mets dans un domaine philosophique. Ça ne m'apporte aucune notion nouvelle de la substance. C'est uniquement au niveau du jugement d'existence de la foi. Ça, c'est merveilleux, ça. Hein. C'est très bon, hein, comme exercice philosophique, comme exercice de la pensée, ça. De comprendre, quand j'attribue le arbre à Dieu, que je dis oui, je peux l'attribuer à Dieu, parce que ça implique aucune imperfection, et comme j'ai précisé dans la foi qu'il y a une procession en Dieu, s'il y a une procession, il y a donc une source et un fruit. Entre la source et le fruit, il y a une relation. Mais quelle est cette relation? Ah, attention, cette relation est une relation substantielle, puisque je ne peux pas attribuer à Dieu, je ne peux pas attribuer à Dieu à l'accident. Donc, je dépouille l'accident de son fondement, je peux le faire, pour ne saisir que l'arbre de la relation, et dire par le fait même qu'en Dieu, il y a une relation subsistante, une relation du Père à l'égard du Fils et du Fils à l'égard du Père. Et que c'est cela qui constitue la personne du Père. Et que c'est cela qui constitue la personne du Fils. Et donc, le Fils est constitué comme Fils par une relation subsistante. Et le Père lui-même est constitué comme Père par cette relation de paternité, une relation subsistante. Alors, vous voyez, c'est, à première vue, on dit, mais c'est très pauvre. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien du tout. C'est merveilleux, parce que ça montre que le Père est Père dans tout ce qu'il est, et que le Fils est Fils dans tout ce qu'il est. Tandis que vous n'êtes pas Fils de votre Père dans tout ce que vous êtes. Heureusement pour nous. C'est vrai, heureusement pour nous, ce serait impossible. On serait totalement relatif. Mais non, c'est quelque chose qui dépend du fondement dont nous dépendons. Mais comme nous savons qu'il y a une intervention de Dieu qui crée notre âme substance, subsiste, notre âme immortelle dans l'embryon, et que nous avons tous vécu cela, et que nous vivons actuellement, que notre âme dépend directement de l'action de Dieu, cette âme spirituelle n'est pas impliquée dans cette relation de notre Père. Elle est source d'autonomie. Et donc, il y a en nous quelque chose qui échappe à notre relation de fils. Tandis qu'une relation subsistante fait que rien n'échappe. Et que le fils, en tant que fils, dans sa totalité de fils, est totalement dépendant du Père. Totalement relatif au Père, disons pas dépendant. Totalement relatif au Père. Et que le Père, en tant que Père, est totalement relatif au fils. Et donc, il y a cette relation du Père et du fils qui va nous permettre de préciser que le constitutif formel du Père, c'est une relation subsistante. Alors, je reviens. Vous voyez donc que j'ai là deux notions totalement différentes de la personne au niveau sagesse philosophique, parce qu'au niveau sagesse philosophique, la personne, c'est la substance individuelle impliquant l'esprit. Tandis qu'au niveau proprement théologique de la très sainte Trinité, la notion de personne, c'est proprement le ad, la relation subsistante. Il y a quelque chose de commun, c'est des deux côtés, il y a la substance. D'un côté, la relation est première, et la substance est impliquée dans la relation. De l'autre côté, la substance est première et l'individuation est impliquée dans la substance. Je suis donc en face de deux notions totalement différentes, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont totalement différentes. L'une, je la saisis philosophiquement, l'autre, je ne peux la saisir que dans la lumière de la foi. Alors, réfléchissez. Sur ce point, je ne reviendrai plus, sauf s'il y a des questions, je ne reviendrai plus, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment, ce point de vue théologique, vous voyez, comment, au point de vue théologique, la notion de personne me permet de préciser, dans le mystère de la très sainte Trinité, l'absolue simplicité et que dans cette simplicité, grâce à la fécondité, il y a cette distinction des personnes. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.